Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec des sons et du sens.
En direct du studio 511, l'émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée d'Élise Amchin avec à la technique aujourd'hui Clément Vuillet et Nicolas Slimani.
Au sommaire cette semaine, la permaculture, c'est quoi exactement et la fiche rouge entrera-t-elle au Panthéon ?
La permaculture, ça englobe plein de choses, toutes des choses que je pouvais faire avant mais que je ne mettais pas forcément en lien de manière si évidente.
Je suis étranger. Je suis venu ici. Bon, nous, on a fait quelque chose en France. Pour la France.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court et qui se faufile cette semaine des allées ombragées d'une ferme de la Mayenne jusque dans les méandres de la mémoire d'un vieil homme, dernier survivant du groupe Manouchian. À l'heure où il est de bonne aloi de se demander non pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre pays, Arsène Tchakarian, 100 ans et 6 mois au compteur, revient avec Guy Vanctil sur les sacrifices des résistants étrangers dans l'espoir de faire entrer au Panthéon le héros de l'affiche rouge, Missak Manouchian. Mais avant d'aller creuser dans les profondeurs de nos mémoires, Antoine Chao vous emmène bêcher votre potager. Bêcher et biner comme acte de résistance pour préparer l'avenir, pour réparer notre société. Par ce temps radieux, comme un bruit part à la découverte de la permaculture, un système global d'action et de pensée avec comme leitmotiv la permaculture est-elle politique ? Car pour rendre à notre planète sa grandeur, il en faudra d'autres des idées que de remplacer nos trains par des bus. Comme un bruit qui court, la permaculture, c'est quoi exactement ? Et l'affiche rouge entrera-t-elle au Panthéon ? C'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
It's time to put America first. We're going to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending for the United Nations. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. Thank you. The agreement is a massive redistribution.
L'accord est une redistribution massive de la richesse américaine vers d'autres pays. Jusqu'à quand va-t-on affaiblir l'Amérique ? Jusqu'à quel point va-t-on se moquer de nous ?
It's time to put America first. Put America first.
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. Will withdraw from the Paris Climate Accord.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Nous allons nous retirer de l'accord de Paris pour le climat. Donald Trump a mis le feu au lac, les grenouilles montent au créneau et le maire de Pittsburgh s'est désolidarisé du président climaticide. Alors nous, on va rester du côté des grenouilles, à la ferme de la Roussière, à Athée, en Sud-Mayenne, chez Thierry et Cathy, qui organisent un CCP, un cours certifié de permaculture. Alors c'est quoi exactement la permaculture ? Apprendre à faire son potager pour se nourrir sainement, auto-construire sa maison bioclimatique ou plus radicalement participer à changer le monde. En tout cas, il y a une dynamique qui est enclenchée, une génération climat qui s'inquiète de la santé de la planète et s'engage dans des actions personnelles et collectives pour mettre en œuvre une transition écologique et sociale, notamment pour le mouvement BC et les actions Alternativa. On est plus chaud, on est chaud pour le climat. Le succès aussi des documentaires Demain, partout dans le monde, des solutions existent. Et qu'est-ce qu'on attend sur les villes en transition de Marie-Monique Robin quand c'est la planète entière qui devient une zone à défendre ? Mais commençons par cultiver notre jardin.
En forme plutôt naturelle, le PC, il est plutôt buissonnant en fait. Et les abricotiers, c'est pareil, ils partent de très bas. Et vous voyez le port plutôt spontané de l'abricotier, il s'étale. Et moi, je trouve ça intéressant aussi de pas intervenir sur certains arbres pour savoir comment ils se comportent spontanément. Et du coup, aussi essayer de se servir de ça, en fait. Parce que là, les abricotiers, il y a très peu besoin de taille. La plupart des fruits à noyaux, il y a très peu besoin de taille. Parce qu'ils ont un port spontanément très étalé, en fait, et qui ne monte pas beaucoup, qui seront accessibles à la cueillette.
C'est de l'ordre de l'utopie réalisable, et on s'appuie sur des choses directement observables.
C'est de la nette.
Ah, mais tu dis c'est de la nette ou du fenouil, faut choisir.
C'est de la nette ou fenouil sauvage.
Donc la nette, c'est du fenouil sauvage.
C'est un des exercices privilégiés du permaculteur, c'est de passer du temps à observer.
D'accord.
À observer pour voir comment la nature fonctionne, comment les animaux fonctionnent, comment ils vivent, etc., comment ils interagissent. Donc je pourrais presque dire que la base de la permaculture, c'est l'observation.
Et c'est plutôt pratique, on va dire,
c'est
de base.
C'est pratique, sauf si tu as un tracteur tondeuse.
Ah.
Les fruits à noyaux.
Thierry Bafou et Cathy Dubourg. Donc, on est sur Athé, la commune d'Athé, petit village sud-mayenne, dont nous sommes natifs tous les deux. Et donc, nous sommes ici nous, depuis une vingtaine d'années avec Cathy, voilà, sur une ferme qui appartenait à mes parents. Nous avons fait le choix dans un premier temps, nous, de partir faire un tour du monde pour étudier l'architecture avant de décider de vraiment nous impliquer et nous investir sur ce lieu. Et au retour de notre voyage, nous avons décidé tous les deux de transformer ce lieu-là en un lieu de vie, donc un lieu où on allait habiter, mais aussi une activité professionnelle, une activité boulangère. Nous avons fait du pain pendant une petite dizaine d'années sur ce lieu-là. Et puis petit à petit, nous avons imaginé un espace de démonstration autour des énergies renouvelables, autour de l'agriculture biologique, autour de ce concept de permaculture. Et donc on a implanté différentes installations pour pouvoir accueillir des groupes en formation sur ces différentes thématiques.
Passage du consommateur dépendant au producteur responsable. C'est ça ?
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on est en train d'apprendre.
L'individu, son habitat et son mode d'organisation. Bah, c'est de la politique que vous faites ici. Hein.
Plus ou moins.
La permaculture, je pense que c'est la réponse réellement à une société malade. En fait.
Alors Thierry Bafou, on est à Terre Devant. C'est une association. Et il y a plusieurs dizaines de stagiaires qui sont là et qui s'initient à la permaculture.
Ils sont 22 pour cette session, qu'on appelle un CCP, un cours certifié de permaculture.
Alors, c'est quoi exactement la permaculture ? C'est une philosophie de vie ? C'est un choix de société ? C'est quoi exactement ?
Pour certains, c'est effectivement une philosophie. Pour d'autres, c'est une grille de lecture de la société, de l'endroit où l'on vit, de son activité professionnelle. C'est un concept qui a été imaginé, en fait, hein, dans les années 70, par observation d'un japonais là, qui a regardé un petit peu comment la nature reprenait le dessus après Hiroshima. Il a imaginé un concept qu'on appelle la permaculture, donc qui va intégrer tous les aspects de la vie, l'habitat, l'alimentation, les relations humaines, voilà, l'écologie au sens très large du terme.
La permaculture a traversé les continents et offre aujourd'hui la possibilité de régénérer les sols, de produire à petite échelle, au niveau local et en abondance.
L'éveil de la permaculture, un documentaire d'Adrien Belay.
Elle trouve un écho dans une frange de la population qui s'est engagée dans la reconstruction d'un nouveau système agricole. Enseignants et apprentis s'organisent autour d'un réseau de formation en constante évolution. Plusieurs générations se sont mises en tête d'intégrer ce système global qui dépasse le simple cadre de l'agriculture. Il s'agit là d'un nouvel art de vivre, durable et éthique.
Donc on va regarder un espace qui peut être un habitat, qui peut être un terrain plus grand, une ferme, qui peut être une ville, qui peut être un pays. Voilà, on peut regarder ça à différentes échelles. Et on va regarder les flux, etc. Mais on peut aussi regarder cet espace-là du point de vue des circulations, des interactions entre les gens, etc. On peut regarder cet espace-là aussi du point de vue de la gouvernance, comment ils régissent leur organisation sociale, etc. Donc c'est vraiment une approche complètement intégrée de la totalité de la vie, en fait. On pourrait dire ça comme ça.
Bah, c'est de la politique, tout ça.
C'est éminemment politique. La permaculture, c'est éminemment politique. Si ce n'est qu'on n'entre pas par ce canal-là. On entre par une analyse intégrée, plus locale, plus concrète peut-être aussi. Mais effectivement, c'est éminemment politique.
Donc là, ça a été recépé à cette hauteur-là.
Alors, c'est vrai qu'on est peut-être tous un petit peu comme Monsieur Jourdain, hein, qui fait de la prose sans le savoir. On fait tous aussi de la permaculture sans le savoir. C'était notre cas, en fait. Hein. Et donc, on a découvert et on a surtout approfondi ce concept par le biais d'une rencontre, celle de Grégory Faupin, un collègue qui est venu travailler avec nous sur le lieu et qui nous a présenté ce concept, différents ouvrages en lien avec la permaculture. Et c'est à partir de ce moment-là et d'un premier CCP, donc d'un cours certifié de permaculture qui s'est déroulé ici en 2011, que nous avons décidé de travailler l'espace de ce lieu, de la Roussière, là, du point de vue de la permaculture.
Grégory, qui est là aujourd'hui justement, hein, sur la question de l'arbre et sur la greffe, etc., et qui a fait toute une visite de cet espace, qu'il a donc lui-même participé à mettre en quoi ?
En mouvement, en vie. Mettre en vie, on va dire ça comme ça.
Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Ouais, pourquoi il penche ?
Il fuit quelque chose,
qu'est-ce
la maison.
Qu'est-ce qu'il fuit ? Il fuit pas la maison, non ? Eh ben, c'est pas un nœud de Hartmann, mais c'est la géobiologie.
Grégory Faupin, je suis pépiniériste dans le Segréen, dans le Maine-et-Loire, produit des arbres fruitiers bio, et je suis passionné de nature et aussi d'agriculture et d'autonomie alimentaire.
Alors Greg, vous intervenez dans cette initiation à la permaculture, vous présentez quoi ?
Moi, je parle des arbres fruitiers comestibles, l'approche de l'arbre qui produit de la nourriture, quoi.
Comment vous présenteriez la permaculture ?
Alors, la permaculture, c'est une réflexion globale sur comment s'implanter sur un terrain donné, sur un territoire. En permaculture, on peut parler d'alimentation, d'agriculture, de santé, d'architecture, de construction, réfléchir à moins consommer, des choses comme ça. En fait, c'est d'avoir une approche globale, d'avoir une réflexion, on dit, systémique.
Et vous, qu'est-ce qui vous a, on va dire, initié ou amené à vous intéresser à cette pratique, alors qu'on pourrait dire un mode de vie, une philosophie de vie, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des études en agriculture. Après, je me suis intéressé à l'écologie, à la biodiversité, en fait. Et j'ai travaillé pour une association de protection de la nature, en lien avec le milieu agricole. Et j'ai vu que, déjà, la biodiversité, elle n'est pas que dans les milieux sauvages, elle est aussi chez nous, dans nos jardins, dans nos champs. Donc déjà, j'ai fait un pont là. Et quand j'ai découvert la permaculture, je me suis aperçu que on pouvait réfléchir au même endroit à toutes les choses auxquelles je m'intéressais. L'art aussi, et donc de la culture aussi. On parle beaucoup de culture humaine en permaculture. Prendre soin de l'homme, ça c'est le premier principe. Prendre soin de la terre, et créer l'abondance pour un partage équitable, en fait. C'est ça, les trois principes. Il y a un écosystème qui est présent, qui est plus ou moins en bonne santé, mais il faut savoir s'en servir, quoi. Prendre soin de l'homme, ça c'est le premier principe. Prendre soin de la terre et créer l'abondance pour un partage équitable, en fait.
Est-ce que ça peut s'appliquer en milieu urbain ?
Il y a un avantage certain à la ville, c'est qu'il y a une ressource humaine très importante, beaucoup plus importante qu'en campagne. Si on veut faire bouger les choses en campagne, on n'arrive pas forcément à trouver 5 personnes motivées. En ville, on peut facilement monter un groupe d'une cinquantaine de personnes pour créer une association, faire des jardins partagés, etc. Donc ça, c'est un avantage favorable à une permaculture, oui.
Regardez, si.
Ouais. Un trèfle à 4 feuilles.
Non. C'est fou ça. T'es rendu à ton quoi, 3e ?
C'est un signe, ouais. Ça.
C'est vrai ?
Oui, 4e ou 5e.
Ici ?
Oui. Il est hyper grand.
Il est assez joli celui-là.
J'en
ai d'autres qui étaient vraiment plus.
Attends, il faut voir avec Cathy là pour le mettre avec la peinture.
Je sais pas ce qui va se passer quand tu vas rentrer chez toi, mais bon.
Après, toutes les variétés de poiriers sont pas compatibles avec le cognacier. Donc ça, c'est. C'est pas. Et c'est un arbre qui produit énormément, quoi. Tous les ans, moi, j'ai toujours vu couvert de poire. Donc ça, c'est de la poire d'été, qu'il faut manger très rapidement. Je ne sais pas quelle variété c'est, mais...
Je pense qu'il faudrait que je coupe celui-là.
Ouais, il faut faire le tour, par contre.
Ouais.
Si t'avais une carte,
de crédit ou une carte de téléphone.
Quoi faire?
Bah tu sais, comme ça on va débuler. Tu sais, t'enlèves le plastique en dessous là.
Ouais.
Et comme ça tu le poses ici là. Et quand t'ouvres, ça enlève les bulles quoi.
Ok.
On n'a pas une main? Ok.
Alors Esther, qu'est-ce que vous préparez?
Là on fait une petite carte pour notre design. Et on va la plastifier pour pouvoir la réutiliser, puis pour que Cathy et Thierry puissent la réutiliser également. Voilà.
Bah, c'est quoi un design?
Moi, personnellement, j'aime pas trop ce mot, en fait, parce qu'il a beaucoup trop de connotations. Design d'une chaise, design d'une maison, design... Et au final, un design, c'est comment je vais gérer mon terrain et comment je vais pouvoir utiliser les déchets comme des ressources et que le terrain soit autonome. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Mais c'est le mot le plus complexe de la permaculture. Alors, c'est une question à 5000 euros, ça.
Mais le terrain, c'est-à-dire le jardin, quoi un terrain?
Un terrain, ça peut être 20 mètres carrés comme ça peut être 20 hectares. Dans n'importe quel lieu, on peut faire un design du lieu, que ce soit petit ou grand. C'est est-ce qu'on veut amener de la cohérence dans ce lieu ou pas? On peut faire un design sur une jardinière de 1 mètre sur 50 cm.
Et sur un pays ou sur la planète aussi?
On peut... L'idée, c'est de faire plein de petits écosystèmes différents. Se dire, on le fait dans plein d'endroits, à plein de petites échelles. Et si chacun le fait dans plein d'endroits, ça devient... ça devient à l'échelle d'un pays. Mais pas une organisation à l'échelle d'un pays. C'est chacun s'organise à son échelle. Et après, oui, on fait des liens entre ces différents terrains, entre ces différents... C'est comme si on faisait un cercle et qu'on liait chaque cercle et qu'à l'endroit de la liaison, là, il y avait une connexion et qu'après, chacun avait son petit cercle, on connectait. Comme un réseau Internet aussi, si vous voulez. Comme un réseau pour les biologistes des champignons, du mycélium. C'est un réseau, en fait, qu'on crée. Voilà.
Et ça participe de l'idée d'agir local et penser global, c'est ça?
Exactement, parce que la permaculture, il y a un amalgame aussi, c'est pas uniquement les plantes et on coupe les arbres, on va voir un potager. Moi, j'ai pas du tout découvert personnellement la permaculture comme ça, mais pas du tout. Moi, je suis quelqu'un du milieu de la construction, du bâtiment, je suis conducteur de travaux, donc pas du tout dans le maraîchage. Et donc, j'ai découvert ça parce que si on veut prendre soin de notre planète, on tombe sur la permaculture en fait. Donc, dans l'habitat écologique, on tombe sur la permaculture. Dans n'importe quoi, en fait. Si on veut avoir une éthique, on tombe sur la permaculture. Et donc, c'est ce qui nous réunit tous, en fait. On vient de différents secteurs d'activité, tous. Mais c'est juste l'éthique qu'il y a derrière la permaculture. On pourrait inventer un autre mot, hein. On pourrait inventer plein d'autres mots.
Et du coup, Esther, vous avez l'intention d'appliquer ce concept à votre domaine d'activité, donc qui est la construction?
Oui. Donc, moi, je viens d'une école d'ingénieur en construction et je fais la construction en terre crue. Donc c'est, pour ceux qui connaissent, c'est le torchis, le pisé, la bauge. Et tous mes stages, je les ai orientés dans cette direction-là. J'ai travaillé 2 ans pour une grosse boîte de BTP, une des 3 grosses boîtes françaises, pour aller voir un peu ce qu'était la norme. Parce qu'au final, ce qui manquait et ce qui pêchait un peu dans les milieux alternatifs, c'était qu'on avait un manque de crédibilité. On était un petit peu considérés comme des hippies marginaux, tout ce qu'on veut, par des zadistes. Sauf que nous, on sait ce que c'est que le monde professionnel, on sait ce que c'est que le monde de l'entreprise. Chacun doit accepter que l'autre a envie de vivre d'une certaine manière. Et donc moi, c'était d'aller voir et d'avoir une crédibilité et de dire, je fais de la construction en terre, mais je sais très bien comment vous fonctionnez. Ça me dérange éthiquement, donc je fais pas comme vous. Par contre, je vous fais pas de pub pour vous dire, faites absolument comme moi. Moi, je le fais comme je l'entends. Après, vous faites-le comme vous entendez, mais je pense que votre système n'est pas viable. Voilà.
Remise en question du système, ouais.
Leur objectif, c'est de faire de l'argent, finalement. Et pour moi, l'argent, c'est un moyen et pas un but. Et voilà, on en a besoin. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut vivre sans argent, en autarcie, pas du tout. La permaculture, c'est des gens qui ont envie de vivre confortablement, qui ont envie de prendre une douche, 3 bains par semaine, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, les 3 bains par semaine, l'eau, c'est de l'eau qui repart en phytoépuration et que nous, on retraite. On fait attention à tout ce qu'on utilise et tous les déchets qu'on crée. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne crée pas de déchets. Les déchets qu'on crée, on essaye de les réutiliser. On est des gens, on a envie de vivre confortablement. Et au contraire, je pense qu'on a encore en plus envie de vivre confortablement que des personnes qui ne se posent pas les questions de la permaculture.
Mais est-ce que ça a à voir quand même avec la décroissance?
Oui, il y a une sorte de de résilience, de se poser les bonnes questions, de se dire, est-ce que j'ai besoin de tout ce qu'on me propose? Et je pense qu'on est arrivé dans quelque chose où... quand on arrive, par exemple, dans un supermarché, j'ai un exemple concret, c'est ma grand-mère.
Question de vie et de mort, la question se pose. Sommes-nous en plein essor, pleine métamorphose, ou encore en plein folklore? Gagne-t-on quelque chose? Deux voitures, cinq téléphones, quatre ordinateurs, trois porte-clés de quatre téraoctets et un robot qui passe l'aspirateur.
Marketing, packaging et publicité.
Entre les pop-up et les teasers grand format.
Carte de fidélité, le client est roi.
Combien ça coûte le pouvoir d'achat? Crédit à la consommation. 25% de réduction. Deux articles achetés, le troisième offert. À terme, tout doit disparaître.
Ma grand-mère. Quand je vais au supermarché avec elle, on va devant l'étal des plaquettes de beurre. Et elle me dit, mais Esther, explique-moi pourquoi il y a autant de beurre et lequel je dois choisir. Oui, la pub a dit ça, mais l'autre il dit ça. Et puis il paraît qu'il faut manger bio. Et puis il paraît que ça, c'est bien pour le cholestérol. Je prends quel beurre? Là, on parle du beurre parce que moi je suis normande et donc c'est la crème. Enfin voilà, mais il y a des choses qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on les a juste à côté de chez nous. Enfin, il y a quand même il y a quelque chose qui n'est pas logique, quoi.
Comme un baruit qui couvre.
Du renfort.
On finit avec les centaines de patates, on verra.
Ah, c'est nouveau bâtiment, T'es là, je peux larguer les patates et venir en renfort, haricots. Hein.
Alors il y a atelier cuisine aussi, c'est ça?
Exactement, il y a un groupe qui fait cuisine. Ouais. On se répartit les tâches, tous les jours on change de tâche, à midi. Donc, entre
alors c'est aussi un apprentissage du collectif, c'est ça?
Complètement, oui, on s'organise pour se répartir les tâches qui nous sont attribuées. Et puis, chaque jour on a un planning différent à respecter, avec des tâches qui nous ont été décrites par... l'hôte de ces lieux, Cathy. Surtout alors, pour le ménage, elle a été très directive. Et là, c'est plutôt Shenley qui nous dirige côté cuisine.
Alors Shenley qui fait la cuisine, c'est ça pour tous, quoi.
Exactement.
Mais vous l'aidez,
c'est
donc
la coordinatrice, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. On lui
donc
donne.
Là, c'est la corvée, enfin la corvée avec un petit verre de rosé, etc.
Ouais,
hein,
ouais,
c'est écossais, les haricots, quoi.
Voilà, là j'enlève la peau des haricots qui trempaient depuis un moment, et puis. Simon qui coupe les oignons et les autres qui enlèvent les peaux des pommes de terre. Voilà.
Bon, bah, c'est pas le bagne, hein, ce stage de permaculture.
Ça me fait pleurer, ça.
Moi, je suis donc Anne Do, une future permacultrice qui fait de la permaculture sans le savoir depuis pas mal d'années.
Anne Do, vous avez fait quoi jusqu'à présent?
Un boulot, je suis secrétaire médicale chez des gastro-entérologues depuis 23 ans. Donc absolument rien à voir avec la choucroute. Et pour l'instant, la culture en général et la permaculture, on va dire, c'est mon loisir. Et j'ai envie de le développer, de le partager et de réduire mon activité à mi-temps et voire même peut-être assez vite à rien du tout en tant que secrétaire, quoi. J'ai envie de changer d'orientation de boulot. J'ai envie de recevoir du public, des enfants, des adultes, de leur faire toucher du doigt tout ce que peut nous apporter la nature et la façon dont on peut vivre avec elle. Essayer de la diriger pour en profiter au maximum et partager après tout ce qu'on en tire. Donc les connaissances, les produits, parce qu'il y aura des fruits, des légumes à partager, il y aura beaucoup de choses, quoi. Voilà mon projet. Moi, je suis sur la région nantaise.
Et toi, Agathe?
Je viens de Grenoble. J'habite dans un petit village avec plein de copains. On a nos animaux, on a notre jardin. Donc, voilà, ça c'est mon petit lieu de vie à moi. Sinon, je travaille à Grenoble dans une association qui est dans l'agriculture urbaine et les jardins partagés. Du moment, je trouve, où on fait du jardin, on essaie de comprendre un peu comment ça marche, on observe un petit peu. En fait, maintenant, on est un peu obligé de mettre les pieds dedans, quoi.
Faire un jardin, un potager, etc., c'est un prétexte pour autre chose, alors, en permaculture.
Un prétexte pour autre chose?
Un prétexte pour changer le monde. Ça suffit pas d'avoir un beau jardin, non?
Pour moi, faire son jardin, c'est, au final, c'est un acte en soi politique, parce que c'est une manière de se réapproprier déjà des savoir-faire qu'on a perdus, retrouver un rapport à la terre qu'on a perdu aussi et qui amène à une autonomie. On ne sait plus être autonome sur plein de choses et c'est une manière de se réapproprier sa vie, quoi.
Alors c'est politique, la permaculture?
Je pense que ça dépend pour qui. Pour moi, ça l'est. Peut-être que pour d'autres, non. Mais en tout cas, pour moi, oui, c'est un acte politique que faire de la permaculture.
Je travaille pour manger. Oui, je suis bien obligé de bien manger pour aller travailler. Oui, je mange pour travailler. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier? Je n'arrête pas d'y penser quand je vais bosser. Faut dire que toute la journée, je vends des poulets, des œufs tout frais, direct du poulailler. Oui, je suis volaillé. Ça ne sert à rien d'y songer, ça n'y pourra rien changer. C'est ce que je me dis quand je me laisse aller à philosopher. Alors je rentre chez moi, le dos courbé, tout résigné. Mais quand je me couche, je trouve ça louche, je peux pas m'empêcher d'y penser. Je me dis, c'est absurde. C'est absurde, mais pourquoi suis-je sur terre? Puis je deviens plus terre à terre, le réveil sonne et je m'empiète à terre. C'est l'heure du petit déjeuner, et déjà je me sens harcelé par cette idée qui vient me hanter. Je mange pour travailler, par cette idée qui vient me hanter. Je mange pour travailler.
Ah là, vous êtes armé, hein, de sécateur.
Sérieusement?
Ouais.
On a le même.
Oh, sécateur, parce qu'on va peut-être faire un petit peu de taille sur les allées, couper deux, trois petites branches ronces qui dépassent. Et puis aussi des petits outils pour sarcler, pour biner, parce que là, on a des semis qui commencent à lever. Il y a pas mal de petites adventices là qui commencent à germer au milieu de tout ça, donc on va sans doute un petit peu éclaircir et faire un peu de tri.
Je pense qu'il faudrait que je coupe celui-là là. Oh. On va voir.
Vous n'étiez pas au paillage hier soir des haricots? C'est vous qui les avez semés?
Oui.
Oui. Donc en 8 jours, hein, sortie de terre. Des belles feuilles, bien vertes. Voilà. Donc hier soir, nous, avec le groupe précédent, on a tout paillé. Hein, on est allé mettre un peu de protection là, pour empêcher justement les herbes indésirables de pousser entre les haricots. Et puis aussi garder l'humidité au pied des plantes.
Alors ça, c'est les buts. Hein, c'est un peu l'alpha et l'oméga de la permaculture, c'est ça?
C'est vrai que c'est une technique culturelle qui est assez exploitée dans le milieu de la permaculture. Il y a plein d'utilisations possibles au but. Nous, dans notre cas bien précis, on le fait pour faire du drainage supplémentaire, parce qu'on est dans une zone assez humide. Et donc sans ce système-là, on aurait un sol assez difficile à gérer, assez tardif. Ça facilite aussi le travail, hein, puisqu'en fait, on est plus à hauteur d'homme. Hein, c'est-à-dire que le bras va plus facilement auprès du sol. Donc on a une gestion de la surface qui est plus ergonomique. On va dire ça comme ça.
Ça veut dire que ces buts, ce jardin potager, là, c'est comme un modèle de société, un modèle réduit, quoi, qu'il faut essayer d'équilibrer, trouver les différentes forces et les équilibrer entre elles pour que ça vive, quoi.
Tout à fait, ouais, on est là-dedans, hein, dans ce conduire ce jardin d'une manière harmonieuse, pardon, avec des associations de plantes, entre là, par exemple, entre les tomates, les courges et les oignons, avec les semis de carottes qui sont à proximité, etc. Donc voilà, une organisation structuré mais équilibré, et où chacun apporte à son voisin en fonction de ce qu'il est. Par exemple, la tomate qui va être un peu plus haute va faire de l'ombre et mettre à l'abri la courge qui est en dessous. La courge, elle, va peut-être s'appuyer sur quelque chose qui a un tronc un peu plus solide à côté et courir autour. Et puis, on va avoir des végétaux plus petits qui vont se mettre entre et qui vont bénéficier de l'ombre, de l'humidité, etc.
Avec l'idée de reproduire ça au niveau personnel, au niveau relationnel et au niveau social.
Alors pourquoi pas. Après, moi je pose pas forcément l'ambition jusque-là, mais effectivement, hein, c'est aussi l'idée, hein, c'est d'essaimer dans la société, dans différents collectifs, dans différentes structures sociales, même syndicales, etc.
C'est quoi ça alors, c'est
des oignons là, des oignons, des courges et des tomates.
Donc là c'est paillé de ce côté-ci et là ça va être paillé là. Ouais.
Tout à l'heure, on parlait de la butte qui était l'alpha et l'oméga de la permaculture. Le paillage aussi, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel.
Donc ça évite de désherber, c'est ça?
C'est ça. En fait, ouais. C'est un petit peu de travail là au moment de la levée, des pousses. Mais ça nous limite vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur la suite. C'est-à-dire qu'à travers la paille, là, il y a très, très peu d'herbes qui vont pousser. Et puis, ça va nous protéger le sol du soleil, hein, donc d'un séchage excessif, et donc garder plus d'humidité au pied. Donc, c'est vraiment très, très, très avantageux. Et puis, cette matière-là va se décomposer dans les mois à venir, dans le sol, et va apporter aussi de matière organique, et donc enrichir le sol pour la saison prochaine.
Bon, en même temps, tout ça, c'est des pratiques ancestrales, j'imagine.
C'est vrai que c'est un petit peu comme dans la construction, quand on parle de bioclimatisme, etc. Les gens disent « Ah non, mais c'est incroyable, c'est innovant ce que vous avez fait. » Je dis « Non, non, on n'invente rien. » On connaît ça depuis des lustres. Quoi. C'est juste une question de bon sens. Alors, c'est des pratiques qu'on a des fois un peu oubliées, ou sur lesquelles on n'a pas forcément mis d'éclairage ou de mots, ou on n'a pas forcément conceptualisé hein, ces pratiques. Mais c'est des pratiques de bon sens qui existent depuis toujours, bien évidemment. Il y a des choses qu'on tente, dont on ne sait pas ce qu'elles vont produire ou faire, mais voilà, par exemple, on a mis des courges sur la périphérie du bassin, à peu près un mètre de l'eau. Donc là, les courges, ça consomme de l'eau, donc plutôt que d'aller les arroser régulièrement, ben, si on les met à proximité, peut-être qu'elles vont se servir directement. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. La cohabitation avec les grenouilles, hein. Je pense pas qu'elles soient consommatrice de courge.
Bon alors Antoine, les grenouilles, est-ce qu'elles sont en ordre de bataille pour intégrer le Front Social?
Elles sont au taquet les grenouilles. Et si la révolution s'inspirait de la nature? C'est en tout cas le sous-titre du documentaire « L'éveil de la permaculture » d'Adrien Bellet qui est en salle en ce moment. Et pour en savoir encore plus, allez sur le site de l'UPP, l'Université Populaire de la Permaculture.
Et en ce 10 juin, jour du massacre d'Oradour-sur-Glane, on va s'intéresser à d'autres fusillés avec Guy Vanctil.
Oui, voilà quelques semaines que des associations arméniennes d'anciens combattants ont lancé une pétition encore modeste pour que Missak Manouchian soit transféré au Panthéon. Gravé dans les mémoires avec ses compagnons FTP Moy, comme un des héros de l'affiche rouge, loué par Aragon, chanté par Ferré, Manouchian reste aujourd'hui un enjeu de mémoire, 73 ans après son exécution au Mont-Valérien, le 21 février 44. Car si certains veulent célébrer ce héros de la Résistance, comme symbole du sacrifice de combattants émigrés pour la France, d'autres sont toujours hostiles à la place faite à ce cosmopolite dans notre roman national, entre guillemets. La preuve avec des actes de vandalisme répétés contre le monument marseillais à sa mémoire. Tout ça pour une occasion pour nous d'aller retrouver Arsène Tchakarian, un vieux monsieur charmant de 100 ans tout rond, qui est le dernier survivant du groupe Manouchian. Puis aussi l'historienne détricoteuse Mathilde Larère, tout ça pour réfléchir à la place dans notre histoire immédiate de ces combattants dont les noms à prononcer sont difficiles, 23 étrangers et nos frères pourtant.
Le Panthéon, c'est aussi un lieu où reposent ceux qui nous harcèlent à chaque instant, qui nous rappellent ce que nous leur devons, sans doute, ce que nous devons faire.
21 février 1944, 22 membres du groupe Manouchian et 3 lycéens bretons étaient fusillés par l'armée allemande
Manouchian, Manouchian, Manouchian.
Dans la clairière du fort du Mont-Valérien.
Dès le déclenchement de la guerre, de nombreux immigrés qui ne sont pas mobilisables se présentent dans les bureaux de recrutement. Beaucoup de communistes étrangers s'engagent.
Messak Manoukian à sa femme, prison de Fresnes, 21 février 1944.
Tu pleures pas, quoi. Je pleure pas. Je suis étranger. Je suis venu ici. Bon, nous, on a fait quelque chose en France. Pour la France. Bon, oui.
On est à Vitry-sur-Seine, place du 19 mars 1962. Rue des Insurgés. Et pas très loin d'ici, rue du groupe Manouchian. Missak Manoukian. Ici, on a l'impression de voyager dans l'histoire. L'histoire de France, l'histoire de guerre, de soulèvement, de révolution, de période trouble. Et c'est ici qu'habite Arsène Tchakarian. Oui, bonjour,
oui,
c'est le journaliste de France Inter.
Oui.
Je suis à la porte, à la grille.
Ah, vous êtes à la porte ?
Oui.
Ah bon, n'hésitez pas.
Merci.
Vas-y, ouvre la porte.
Ah, j'entends qu'on vient m'ouvrir. Bonjour, madame. Merci beaucoup.
Bon,
vous allez bien ?
Ben, il faut, hein, ce que vous avez. C'est pas facile avec un monsieur de 100 ans.
100 ans, ouais.
Il a dépassé 100 ans. Il va sur 101 ans. Il a eu 100 ans l'année dernière au mois de décembre. Et puis bah, maintenant, ça continue, mais il faut le soigner. De temps en temps, il a été à l'hôpital quand même 2 mois et demi. Il a très très mal supporté l'hôpital. Alors on le garde.
À la maison.
Voilà.
100 ans et demi, voilà.
Voilà. Oui, oui, 100 ans et demi.
Vous, c'est Jacqueline, c'est ça ?
C'est, oui, Jacqueline, c'est moi.
Et vous êtes son épouse, c'est ça ?
Oui, oui. Depuis plus de 60 ans, 62 ans maintenant.
Jacqueline !
Tenez, vous êtes, mon mari, il est là, dans le bureau.
Ah oui.
Voilà.
Le petit jardin. Merci beaucoup, à tout à
Allez.
L'heure.
Jacqueline. Au revoir, monsieur.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Alors ?
Merci beaucoup de me recevoir.
Ben oui. Je ne reçois pas souvent maintenant.
Ouais.
Mais avant. Approchez, voilà. Voilà, oui. Mettez-vous là déjà, d'accord. Qu'on parle déjà, ouais. C'est bon, vous avez vu la fiche là, déjà ?
C'est quoi ?
Là-bas.
Ah, je peux la prendre ? Je peux la relever ?
Hein ?
La fameuse affiche rouge, des libérateurs, point d'interrogation, oui. La libération par l'armée du crime. Manoukian, arménien, chef de bande, 56 attentats, 120 morts, 600 blessés. Rayman, juif polonais, 13 attentats. Alfonso, espagnol rouge, 7 attentats. Fontano, communiste italien, 12 attentats.
Là, il n'y en a que 10, mais nous étions à peu près 30, 35.
Tous étrangers ?
Tous étrangers, oui. Oui. Il y en avait 2 ou 3 français, mais ils ont été fusillés aussi. Autrement, le reste, tous étrangers, oui.
Il y a un an, les Allemands collaient cette affiche sur les murs de Paris. Ces hommes qu'ils fusillaient sous le nom de terroristes, ils les avaient choisis dans une rafle de 200 résistants arrêtés par eux, et ils avaient choisi exprès des étrangers. Ils cherchaient ainsi à déshonorer la résistance en la présentant comme le fait d'étrangers suspects et dehors la loi. Mais la France ne s'y est pas trompée, et les Allemands n'ont déshonoré qu'eux-mêmes. Ces hommes, venus de tous les pays d'Europe, avaient pris part en France à la lutte pour la libération.
Jacqueline, tu peux nous apporter quelque chose à boire, Jacqueline ? Quelque chose à boire.
Un verre d'eau, c'est très bien pour moi, merci.
Un verre d'eau ? Vous voulez pas un jus de fruits ?
Comme vous voulez,
merci. Ça serait quand même.
Apportez-nous quelques...
C'est gentil.
Le seul survivant.
Vous montrez tous leurs portraits. Le seul survivant du groupe Manoukian.
Oui.
Vous portez cette mémoire-là depuis plus de 70 ans.
Écoutez, c'est en 1943 que... Mes camarades ont été arrêtés, mais ceux qui ont été arrêtés, ce n'est pas n'importe qui. Bon, je vais essayer de vous donner quelques...
Alors là, vous cherchez dans votre étagère.
Aidez-moi.
Oui, alors je prends le grand dossier.
Oh,
pas.
Hop là, attention, vous me faites peur.
Non, mais...
Vous prenez des gros dossiers. Ah, c'est lourd en plus. Alors, asseyez-vous.
Ah bah, je vois des coupures de presse, là. Arsène Tchakarian est rescapé du groupe Manouchian. Ces étrangers et nos frères pourtant morts d'avoir combattu contre le nazisme et pour la libération de la France.
Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française.
Je m'appelle Arsène Tchakarian.
Vous êtes né où ?
En Turquie.
Mais vous ne m'avez pas dit comment vous l'aviez rencontré, Manouchian.
Manouchian, déjà, il était là, quand on est arrivé en France. Il avait des frères aussi, que je fréquentais à l'époque. Et alors, il vient, et puis il dit, voilà, Arsène, maintenant, tu laisses tomber ta famille, tout ça. Il faut que maintenant, on se bat avec des armes. Jeter des grenades, mais quelque chose d'organisé. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Vous vouliez tuer des Allemands, vous vouliez tuer des nazis.
Mais il fallait d'abord... attaquer, abattre aux soldats ou un officier ou un truc comme ça. Sinon, vous ne rentrez pas dans le groupe.
Pour rentrer dans le groupe, il fallait tuer un Allemand.
Oui.
Et qu'est-ce que ça fait la première fois?
Qu'est-ce que ça fait? Moi, je vous pose la question à vous aussi. Qu'est-ce que ça va faire si vous voyez autour de vous, on tue votre machin, on arrête votre cousin, et les Juifs qui pleurent. Enfin, je sais ce que c'est. Quand une maman, il crie pour ne pas lâcher son enfant, ma mère aussi, c'est pareil. Voilà. Tout ça, ça vous montait un peu la colère contre les nazis et tout ça. Et puis on a attaqué donc 3-4 jours après, une vingtaine Feldgendarmes. À partir de là, Manouchian est devenu le responsable militaire.
Juillet 42. Le 5, trois combattants ont jeté des bouteilles dans un garage allemand de réparation auto. Plusieurs voitures incendiées. Le 10, deux combattants ont abattu deux gendarmes allemands dans le 19e arrondissement et se sont emparés de leurs armes. Le 15, attaque d'un groupe de militaires allemands dans l'avenue de Wagram.
À la fin de 1942, la lutte armée des FTP-Moy se développe. On imagine ce qu'il fallait de courage et de détermination à ces jeunes gens mal armés, munis d'explosifs artisanaux, pour attaquer dans un Paris allemand des objectifs militaires.
26 novembre 42, place de la Concorde, dépôt de deux engins au passage d'un détachement allemand, morts et blessés. 2 décembre, lancement d'une grenade dans un bureau d'embauche allemand, avenue de Breteuil, dégâts et blessés.
Vous savez, moi si je veux, je peux détruire des trains, et puis vous saurez rien, parce que nous on allait abattre les officiers dans Paris, en plein jour comme ça. On allait, deux, trois, hop, ta 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 ta, on tire, et puis tout le monde en enlève, et puis... disparu.
C'est gentil.
C'est glacé, hein, attention.
Merci. Votre santé. Allez,
à la vôtre.
À la vôtre. Tiens, dites-moi, Arsène, oui. Vous permettez que je vous appelle Arsène ?
Oui.
Pour le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire pour Vichy,
oui.
Vous étiez des terroristes.
Ah oui, terroristes, oui.
Et d'ailleurs, vous avez fait des actions terroristes. Vous avez attaqué, tiré.
Oui.
Attendez-moi. Ça, c'est des dossiers avec toutes les photos, les archives, les cartes. Francs-tireurs, partisans français, ont versé le sang pour le peuple de Paris. Ça, c'est une affiche du maquis à Paris,
regardez,
1934.
Regardez, les maquis.
Ça, c'est des photos de l'époque ?
Mais c'est des vrais ?
C'est vous qui les avez prises ?
Non. Moi, je ne peux pas faire photo et tirer.
Oui, on ne peut pas faire des photos.
Mais oui, c'était pas la même chose, les photos. Allez-y, regardez.
Mais j'aime bien la phrase que vous dites, on ne peut pas prendre des photos et ou tenir un pistolet, il faut choisir quand on est en train de se battre.
Les pistolets, ça, j'en ai fait.
Ouais.
Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants.
17.
73 ans déjà,
oui,
que cela passe vite, 73 ans vous vous étiez servi. Simplement de vos armes.
Là, je vais pas dire officier.
La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Hein? Jacqueline !
Comme un bruit qui court.
Là. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Tiens, ça c'est moi. Avec des. Ah, c'est un camarade, ça.
Un général soviétique. Manouchian. Et ça, c'est la reproduction de la célèbre lettre du 21 février 1944,
voilà.
Depuis la prison de Fresnes. Et c'est la lettre à Méline, sa femme, sa
Méliné, fille. Méliné. Oui, c'est sa femme.
Et il dit, ma chère Méline, ma petite orpheline, oui. Bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15h.
Ça m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.
Que puis-je t'écrire ?
Que puis-je t'écrire ?
Et bien clair en même
tout
temps.
Est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération, soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
Dignement. Sauf que, Arsène, il y a un monument à Marseille, un monument à Manouchian, qui a été vandalisé à plusieurs reprises par des groupes d'extrême droite.
Oui, c'était une pierre, tout ça, enfin bref. Ils l'ont deux, trois fois, bien sûr. Ça, c'est ce qu'ils n'aiment pas beaucoup, la résistance. Mais il n'y a pas que là-bas.
Mais quand on s'attaque aussi à Manouchian et à l'affiche rouge, c'est aussi des étrangers qu'on attaque.
C'est des vrais Français.
Écoutez. Vous êtes les vrais Français, oui.
Oui, Manouchian aussi.
Deux hommes militants d'extrême droite condamnés ce matin à 100 heures de travaux d'intérêt général par le tribunal correctionnel de Marseille. Ils ont profané la stèle Manouchian, militant communiste résistant, fusillé au Mont-Valérien à côté de Paris en février 1944.
À la fin de cette action, les militants mettent un voile sur la stèle, considérant que c'est une honte pour la France.
Si vous trouvez, voilà.
Ça, c'est la photo du 21 février 1944.
C'est quand ils ont été fusillés au Mont-Valérien.
Ça, c'est les photos du peloton d'exécution.
C'est, oui.
Ça, c'est vos camarades, là, qu'on voit, là.
Oui, mais
avec des soldats allemands.
Il n'y a pas longtemps qu'on a trouvé ça. C'est les Allemands, ils ont photographié.
J'ai lu quelque part que vous avez dit, moi, je pleure jamais et j'ai jamais pleuré.
Non, jamais. Je pleure pas, voilà. Mais je pleure pas. Je pleure pas, mais il y a quelque chose en moi. Il devient beaucoup plus vache encore.
C'est pire que des larmes.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on combat quelque chose, et vous savez que c'est juste. C'est juste parce que je suis étranger. Je suis venu ici. Bon, nous, on a fait quelque chose en France. Pour la France.
J'ai juré jusqu'à ma mort de parler d'eux. Arsène Tchakarian.
Voilà, c'est ça.
Pour ça, quand je vous ai appelé, vous avez accepté tout de suite de me recevoir pour me parler de l'affiche, pour me parler de Manouchian et pour me parler de cette pétition qui demande à ce qu'il rentre au Panthéon. C'est légitime d'après vous ?
Ben oui, c'est légitime parce que Manouchian, c'est quand même, c'est la résistance. Oui, c'est une bonne idée parce qu'on ne connaît pas Manouchian en vérité.
Depuis cette époque-là, vous, à 100 ans passés, vous allez dans les écoles, vous allez aux cérémonies.
Bon, oui.
Par fidélité à Manouchian et aux camarades.
Mes camarades, il y a un cimetière parisien ici. Mes camarades, ils sont là-bas. Chaque année, je vais. Et je disais chaque fois, quand je serai mort, quand vous, vraiment mort, ben, je m'arrêterai. Mais jusqu'à là, je viendrai chaque année pour la mémoire de mes frères, oui. Oui.
Est-ce que vous pouvez me dire une phrase en arménien ?
Parev, paregam. Bonjour, mon ami.
Merci beaucoup.
Attendez, il y avait aussi quelque chose ici. Ben, ça, vous pouvez le prendre aussi, si vous voulez.
D'accord.
Si j'ai été vivant, bien.
Vaillant ?
Vaillant,
parce que vivant, vous l'êtes toujours.
C'est ça.
C'est déjà beaucoup, hein. Rendez-vous compte.
J'aurais travaillé pour l'entrée de Manouchian au Panthéon. Il méritait, mais...
Son compagnon, il ne peut pas l'oublier.
Hein?
Il y en a partout dans la maison.
C'est ça?
Oh, toujours. On a vécu ensemble 62 ans. Et il y a toujours Manouchian entre nous deux.
Allez. Au revoir. Merci.
Bonjour.
Mathieu.
Enchanté.
Tu veux un café?
Bonjour Mathilde Larrère.
Bonjour.
Je suis venue vous voir parce que vous êtes historienne des révolutions et de la citoyenneté, c'est ça?
Oui, c'est ça.
À faire les liens entre ce que raconte notre rapport à l'histoire avec notre quotidien, pour ce qui nous concerne l'affaire Manouchian, qui a encore l'air de tirailler des prises de position opposées. D'un côté, les monuments à la mémoire des Manouchian sont profanés, c'est le troisième en 2 ans, même pas. Et de l'autre, voilà des associations arméniennes françaises qui se mobilisent pour le faire entrer au Panthéon.
Oui, oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que derrière Manouchian, c'est tout le groupe des FTP Moy, et en fait, c'est la question de la main-d'œuvre immigrée. L'enjeu, et c'est pour ça qu'il y a d'un côté, effectivement, un désir de reconnaissance, et de l'autre, des tombes profanées. Mais ce qui est en jeu, c'est la place que l'on reconnaît, ou qu'on refuse de reconnaître, selon les familles politiques, à l'apport de l'immigration dans notre pays, que ce soit économiquement, politiquement, et là, dans la résistance. C'est ça qui se joue, et c'est ça qui est hyper touchy en ce moment. Manouchian, quand il se fait arrêter, puis il est jugé sur une espèce de simulacre de procès, il dira à ses juges qui sont français, vous, vous avez hérité de la nationalité, mais nous, nous l'avons mérité. Et finalement, c'est ça qui se joue. Et là, évidemment, c'est complètement à rebours des discours sur la France, français de souche, qu'on voit présent et ressortir actuellement. Donc forcément, Manouchian, c'est le parfait contre-exemple.
Alors vous, Mathilde Larrère, l'historienne, qu'est-ce que vous pensez justement de cette pétition lancée pour faire rentrer Manouchian au Panthéon?
Alors, le truc, c'est que moi, je ne suis pas pour faire rentrer des gens au Panthéon. C'est-à-dire
ah
que...
Bon.
Ben non. Le Panthéon, je comprends que ça existait. Ça ait du sens en 1789, je comprends. Que même à la limite, la République, plus tard, au 19e siècle, ait eu besoin de faire un rituel pour s'opposer au rituel monarchique, pour s'opposer au rituel religieux. Hein. La panthéonisation, c'est la canonisation laïque. Hein. Bon, ok, je comprends. Mais maintenant, le Panthéon, c'est une espèce de gros truc froid dans lequel personne ne va et dans lequel sont enterrés tout un tas de gens très bien. Hein. Il y a Schœlcher, mais il y a aussi une palanquée de cardinaux, de juristes qui sont responsables du code civil, lequel est une véritable catastrophe et pour les femmes et pour les ouvriers, etc. Pourquoi pas le fermer et puis essayer de faire autre chose? Maintenant, s'il faut faire rentrer quelqu'un et qu'on continue à penser que le Panthéon, c'est important, et ben oui, Manouchian, super. Mais il y en a plein d'autres. Moi, je serais pour faire rentrer tous les fusillés de fourmis, pour faire rentrer tous les victimes de la Commune. Parce qu'il y a ça aussi, les grands hommes, ok, mais les sans grade, hein, les sans nom. Mais dans ce cas-là, ça va devenir le Père Lachaise, hein, tellement il y a de monde à faire rentrer dedans.
On transfère le Père Lachaise au Panthéon et inversement.
Oui, oui. Tiens, par exemple, moi, je ferais bien rentrer Ambroise Croizat. Vu le temps actuel, mettre celui qui a vraiment créé la Sécu, ça serait pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à reconsulter en ce moment. Là, ce qu'on fait subir à l'histoire et au passé, c'est quand même assez violent.
Je suis étranger. Je suis venu ici. Bon, nous, on a fait quelque chose en France. Pour la France. Bon, oui.
Que vous vouliez fermer le Panthéon ou bien le remplir, merci en tout cas et longue vie à Jacqueline et Arsène Tchakarian, à Mathilde Larrère, dont vous pouvez retrouver les chroniques de Détricoteuse sur le site Arrêt sur Image. Et merci enfin aux Nouvelles d'Arménie, à Georges Eretzian, des anciens combattants français d'origine arménienne, et Grégoire Amirzaïan, à l'origine de la pétition pour la panthéonisation de Manouchian, que vous pouvez retrouver sur notre site.
À l'adresse franceinter.fr. C'était Comme un bruit qui court. N'hésitez pas à nous laisser des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court. Hashtag comme un bruit. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.